SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 176, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Semaine compliquée sur le plan de la scène internationale. On va en parler bien entendu avec les événements qui sont passés autour de l'Iran et l'attaque américaine, israélo-américaine sur l'Iran. On va parler de tout ça d'un point de vue français et la réaction française et du président Emmanuel Macron. Et en deuxième partie, nous parlerons des municipales qui arrivent à grands pas encore une fois en France. Et ces élections ont un enjeu à la fois local, national et bien entendu européen. On va voir tout ça avec vous, Nathanaël. Mais d'abord, commençons avec ce qui occupe l'actualité ces derniers jours. 6 jours depuis les premières attaques américaines ou israélo-américaines sur l'Iran. La réponse de la France également. Parlez-nous un petit peu de ce qui a été dit dans l'annonce solennelle, d'ailleurs, du président Macron aux Français.
Alors, le président Macron, il est, j'allais dire, concerné, en fait, comme tous les grands dirigeants de ce monde, par ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis maintenant 6 jours au Proche et au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'évolution, un petit peu de la position d'Emmanuel Macron. Peut-être avant de rentrer dans les détails, au début, on avait l'impression vraiment que Emmanuel Macron et la France ne faisaient pas partie de la photo, par deux aspects. Hein. Déjà, pas concerné par, j'allais dire, l'opération elle-même. La France n'a pas participé, en tout cas, ce qui a été dit dans les premiers temps, à ce qui s'est passé sur le terrain. Et puis même, lui-même, Emmanuel Macron, avait en fait très tôt presque mis en garde Trump et Netanyahou contre... un enlisement au Proche et au Moyen-Orient. Ça, c'était la position de départ le week-end dernier, on va dire, du président français. Et puis, il y a eu ce discours, cette allocution, cette Marseillaise, ce vol, ces escortes de frégates, etc. Et puis là, on a l'impression qu'on est plus en présence d'un Emmanuel Macron martial, qui a un petit peu fait un virage à 180 degrés, alors qui ne dit pas qu'il interviendra de manière agressive ou directement sur le terrain, mais il utilisait des mots comme défensif, une position défensive de la France. Et donc, intéressant de voir que la position de la France elle-même et même l'image de leader pour Emmanuel Macron a changé en à peine 6 jours après le déclenchement de cette guerre israélo-américaine en Iran.
Est-ce que le fait que des intérêts français aient été touchés par des bombardements et des drones iraniens a changé la donne? Le déplacement, la mise en place du Charles de Gaulle, la mise en place de certaines frégates dans la région, officiellement pour protéger les intérêts français dans la région et sur le détroit et tout ce qu'il y a comme intérêt au niveau du gaz et des intérêts pétroliers. Est-ce que tout ça, ça a changé la donne dans le diktat français?
Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'abord l'évolution de la position d'Emmanuel Macron. Elle est d'une certaine manière aussi la résultante de la prise de position d'autres leaders politiques, même français, où le chef de l'État ne pouvait pas ne pas se positionner. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, en fait, on avait l'impression que Emmanuel Macron laissait un petit peu le champ politique libre à ses adversaires, même à la France insoumise, hein, qui se prononçait beaucoup plus, de manière beaucoup plus avérée sur ces questions-là. Et puis, en fait, après son intervention, après son allocution, il y a eu une espèce de presque de statu quo de la part de l'ensemble des groupes politiques pour saluer, ce qui est quand même assez rare, en tout cas pour reconnaître qu'il y avait une certaine de justesse à cette allocution d'Emmanuel Macron. Donc je crois que d'abord le premier élément, avant même les intérêts français, Christophe, c'est ne pas perdre la face quand même dans un contexte électoral pour Emmanuel Macron sur un sujet aussi important. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, deuxième élément, et je crois que vous avez tout à fait raison, c'est la question des intérêts français. Alors, c'est remis maintenant un peu en débat, mais c'est aussi le fait que en début de semaine, on a parlé d'un missile, des conséquences à Chypre, donc au sein d'un pays de l'Union européenne. Donc, ça change quand même la donne hein, pour le ouais, leader français. Ouais. Un pays de l'Union européenne soit directement touché.
Un pays qui a la présidence de l'Union européenne. Chypre a la présidence de l'Union européenne.
Un pays qui a la présidence, un pays aussi où sont touchés des intérêts britanniques. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont entrées. Donc je crois qu'effectivement c'est ces deux aspects-là, à la fois ne pas laisser les autres partis politiques en France créer leur narratif autour de cette guerre et rappeler qu'il est chef des armées, parce que ça, il faut pas l'oublier dans la Constitution française.
Tout à fait.
Le président de la République, par rapport au Premier ministre, a certaines prérogatives, certaines priorités, et il est le chef des armées. Donc, in fine, pour simplifier un petit peu, et pour peut-être donner une image à nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, celui qui peut appuyer sur le bouton nucléaire, qui a les codes du bouton nucléaire, c'est le président de la République en France. Donc, c'est aussi un peu une manière de rappeler cette position et ses attributions du président de la République. Et puis, Emmanuel Macron, encore une fois, maintenant, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des frappes qui ont eu lieu et c'est limité et ça s'est arrêté. Un peu comme on avait vu d'ailleurs au mois de juin dernier, si vous vous rappelez, c'était beaucoup plus fugace. Hein. Il y avait eu quelques frappes ciblées, etc. Là, on est clairement parti. Alors, on a lu 45 semaines. Donald Trump lui parle seulement de quelques mois. Mais en tout cas, on est parti sur une guerre et une guerre plus longue que les frappes de juin dernier. Donc, de toute façon, Emmanuel Macron, il devait à un certain moment, excusez-moi l'expression, rentrer dans la danse et se positionner et faire évoluer aussi justement ce discours, pas simplement, j'allais dire, parler d'un enlisement et essayer d'empêcher cet enlisement, mais bon, l'enlisement, en fait, c'est pas tellement lui, il a pas tellement d'impact sur ça. C'est maintenant qu'il y a enlisement, c'est quoi la position de la France? Et ça, je crois que c'est la séquence que le président français est en train d'écrire.
Au niveau européen, c'est important parce que on va parler de deux points au niveau européen. Un, d'abord, la position de l'Espagne, qui est assez dure dans le sens où l'Espagne ne veut rien avoir à faire avec ce qui se passe là-bas, en disant que, en étant des mots assez durs hein, envers l'administration Trump, et également la position française qui dit que Emmanuel Macron veut augmenter le nombre d'ogives nucléaires, le nombre de têtes nucléaires, le nombre de donc on n'est plus du tout dans ce désarmement qu'on a peut-être connu dans les années 90-2000, le désarmement nucléaire entre l'Union soviétique ou la Russie et les Américains. Là, la France ouvertement dit qu'elle va augmenter son nombre d'ogives nucléaires disponibles. Ça a été suivi par plusieurs pays hein. D'ailleurs, le Benelux se dit entre guillemets, se réjouit de cette décision. Il y a deux points importants parce qu'il y a un peu une dissonance au niveau européen. Et la dissonance, elle vient principalement, voilà, du Portugal, d'Espagne, qui sont des pays ouvertement contre ce qui se passe. Donc, l'Europe, encore une fois, c'est un peu une poudrière politique. On ne sait pas trop où. Il n'y a pas une voie unie en Europe.
Non, et d'ailleurs ça pose la question, j'allais dire, très frontale et peut-être un peu provocante, c'est est-ce que l'Union européenne a les moyens politiques / diplomatiques, en fait, de jouer un rôle dans la guerre d'abord, dans la gestion de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi même dans la solution, parce que, in fine, toute guerre, elle doit se terminer, et l'idée, c'est de mettre les acteurs autour de la table. Et donc, le fait déjà qu'il y ait une espèce de non-alignement de l'Union européenne sur ce qu'il faut faire après six jours du début de ces opérations, ça ne présage rien de bon sur le fait que l'Union européenne puisse jouer un rôle politique, diplomatique dans la mise en place d'une solution de ce conflit, dans un processus de paix. Et d'ailleurs, je rajouterai sur ce point, Christophe, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, que l'Union européenne est quand même le grand ensemble absent.
Totalement.
Du Proche et du Moyen-Orient. C'est par rapport aux
Américains. Ce qui fait peur, c'est qu'on l'avait dit la semaine dernière sur l'Ukraine et la Russie. Globalement, l'Union européenne, carton jaune, carton rouge, hein, quand même, hein, un peu en ce moment. Hein.
Là, pour l'instant, on joue pas les prolongations, effectivement. Non, mais pour revenir plus sérieusement, effectivement, alors il y a des sensibilités qui sont différentes. Il y a pas de problème. Je veux dire, l'Union européenne, c'est pas un bloc non plus monolithique. C'est pour ça qu'il y a des conseils de l'Union européenne, des conseils européens. C'est pour ça que les dirigeants, les chefs de gouvernement se réunissent. Ce qui est plus compliqué, c'est que il y a des positions inconciliables. C'est-à-dire que quand vous avez des pays qui maintenant, alors on va reprendre l'exemple de la France et qui est le discours Macron post-allocution, sont prêts à quand même fournir un effort, et que de l'autre côté, vous l'avez mentionné, le Portugal, mais surtout l'Espagne en fait, qui refuse un accès aux États-Unis à ses bases, notamment à Morón et Rota, et qu'après vous avez en plus un comportement de Donald Trump qui est un petit peu si tu veux me punir sur ça, moi je te punis avec mes tarifs.
Enfin, à la Donald Trump.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même dans un cas où on va jusqu'à fournir ou en tout cas créer plus, reconcentrer ses efforts en termes d'armement, et de l'autre côté, on n'en est même pas à ce point-là, on en est au niveau de, sans même parler d'une question d'armement, pas de mise à disposition de ses bases militaires à des points stratégiques à un pays quand même allié.
Ouais, et c'est vrai que l'Espagne, alors moi je critique pas l'Espagne, parce que chacun sa position, mais l'Espagne aurait pu simplement rester en dehors du débat, ne rien dire, mais prendre position et dire que l'Espagne ne mettra pas à disposition ses bases pour l'opération, c'est un statut fort, qu'on aime ou qu'on aime pas, mais c'est un statut fort.
Oui, c'est une position qui est forte. Alors c'est aussi une position qui est celle du gouvernement espagnol.
Elle est dans la lignée de ce qui a été fait avant. Hein.
Elle est dans le non-alignement, j'allais dire même.
Dans le non-alignement, d'ailleurs, oui.
Elle est dans la lignée du non-alignement de l'Espagne par rapport à cela. Et donc, c'est pas étonnant. Ce qui est plus étonnant, encore une fois, c'est que c'est des réponses qui sont complètement dispersées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse de l'Union européenne. Et qu'encore une fois, pour schématiser un petit peu, la question, c'est là, il y a eu très concrètement un pays de l'Union européenne qui a été touché.
Oui,
tout donc, à fait. On a parlé, et là on revient sur, je vais revenir sur le conflit en Ukraine sur l'invasion russe en Ukraine. On avait parlé d'une zone tampon, et donc d'une certaine façon, tant qu'on touche pas à l'Union européenne, ça va, on s'implique pas trop, on fournit ce qu'on
peut. Et là on parle pas des intérêts, encore une fois, on parle de Chypre.
Là on parle de Chypre, donc là on est plus sur une zone tampon risquée, on n'est pas sur la Turquie, etc. On est sur, c'est une agression, enfin c'est une attaque sur le sol de l'Union européenne. Et donc c'est ça aussi qui est qui est très troublant, c'est que non seulement il n'y a pas de réponse forcément de l'Europe, mais que de toute façon je ne vois même pas, Christophe, pour être très honnête avec vous, comment il pourrait y avoir une réponse de l'Europe quand, encore une fois, on a des équilibres complètement impossibles dans les réponses européennes, alors qu'on pourrait s'attendre tout simplement à ce qu'il y ait d'une certaine façon, le bon dosage pour apparaître sur la scène internationale et pour se positionner sur ce conflit. Alors, le bon dosage, moi, je sais pas, on n'est pas expert militaire, mais est-ce que c'est utiliser ce vocabulaire d'action défensive, par exemple, et de rester sur cet aspect-là d'action défensive nécessaire et proportionnée, comme on l'a entendu, est-ce que ça, c'est une position par rapport au caractère plus agressif et de l'interventionnisme israélo-américain et même du Qatar. Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Je sais pas. En tout cas, l'Europe, l'Union européenne n'a pas encore communiqué sa réponse concrète et sa réponse, concertée et cohérente en tant que bloc politique et diplomatique. Et donc, pour revenir sur votre phrase, ça fait assez peur.
Ouais, j'ai une toute dernière question par rapport à ça avant qu'on passe au second sujet d'Europa Voice. L'idée d'une armée européenne dans tout ça, est-ce qu'elle est de plus en plus distante? On en a beaucoup débattu, vous et moi, au moment du Brexit, parce qu'on sait que les Britanniques étaient contre cette armée, c'était un des vraiment gros points de contention, et du fait qu'on n'ait pas une armée européenne aujourd'hui, c'est souvent, on peut penser que c'est beaucoup à cause du veto britannique qui a été posé plusieurs fois. Est-ce que quand on voit les telles différences en termes de politique au sein de l'Union européenne, est-ce qu'on peut encore penser qu'une armée européenne est possible ou pas?
C'est une question.
La pause me fait peur, Nathanaël.
c'est une question à 1000 euros. Déjà, c'est possible parce que les Européens en ont parlé. Donc, c'est pas un sujet qui est totalement en dehors du champ des possibles, d'abord. Ça, c'est quand même un premier élément rassurant. C'est quelque chose qui a déjà été sur la table. La question, elle est plus de savoir, encore une fois, quel est le projet dans les prochaines années de l'Union européenne. c'est toujours ce débat, on y revient toujours dans Europa Voice et sur Asbest, entre l'intégration européenne, l'approfondissement européen et l'élargissement. On a élargi tellement l'Union européenne au début des années 2000 que c'est beaucoup plus difficile d'approfondir des politiques communes européennes quand on est 27, que quand on est 12, que quand on est 15. Alors, ne nous y méprenons pas. Hein. La question, elle n'est pas de savoir si l'élargissement était une bonne chose ou pas. La question, elle est plutôt de savoir, maintenant qu'on est un ensemble de 27 pays, comment est-ce qu'on fait pour approfondir les politiques européennes déjà existantes et comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, sur l'armée européenne, faire en sorte que des politiques souhaitées, elles puissent être effectives au sein de l'Union européenne. Donc c'est un peu une réponse de Normand, mais je vais vous dire que cette question elle a déjà été sur la table et que elle se révèle avec encore plus d'acuité quand on est en train de voir ce qui se passe et notamment ce qui se passe depuis quelques jours proche au Moyen-Orient.
Mmh. Absolument. Ok, ce sera une affaire à suivre, en tout cas pour 1, 2, 3, 10, peut-être, Europa Voice à venir. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie d'Europa Voice.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Deuxième partie d'Europa Voice cette semaine, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, parlons un peu politique française maintenant. Les municipales approchent encore une nouvelle fois à grands pas. On l'a déjà débattu, on a déjà parlé à quel point cette élection allait être importante dans le lancement d'une certaine séquence politique en France. Qu'est-ce qui a évolué depuis la semaine dernière? On sait que les écologistes dans des villes comme Lyon, par exemple, c'est toujours le débat par rapport à ce que les écologistes pourront faire dans le cartel de la LFI ou pas.
Oui, c'est alors il y a pas mal de choses, hein, Christophe, qui ont évolué ces derniers temps. Pour parler de la gauche, il y a déjà, au-delà même de la question des écologistes, il y a la question en fait de, alors est-ce que c'est un divorce, est-ce que c'est des tensions, mais il y a la question en tout cas de la relation entre la France insoumise et le Parti socialiste, la relation qui est en train vraiment de se dégrader, notamment après les derniers propos et les saillies, hein, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il semble que cette fois, en tout cas, il y a une vraie brèche entre le Parti socialiste et la France insoumise avant ces élections. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va être des alliances au cas par cas? Est-ce que ça veut dire que il n'y aura pas forcément de report des voix? Est-ce que ça veut dire que ça peut encore évoluer entre maintenant et les élections municipales qui vont arriver assez vite à la fin du mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bloc de gauche qui n'est pas uni. Voilà. Et s'il y a un bloc de gauche qui n'est pas uni, le risque, c'est pas tellement, en tout cas, c'est moins d'abord dans un premier temps la question du deuxième tour que la question du premier tour et la question de faire le pourcentage de voix nécessaires pour se qualifier au second tour. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, on est à 12,5% pour accéder à ce second tour et donc ça pose cette question-là de savoir si les listes arriveront à se maintenir à ce second tour si encore une fois il y a cette mésentente entre la France insoumise et le Parti socialiste.
Et je fais là une aparté là, la LFI non plus n'a pas une énorme expérience sur le tissu local dans ces élections municipales, on l'a dit auparavant, la LFI c'est pas vraiment impliqué historiquement dans ces élections à ce niveau-là local. Donc c'est aussi une nouveauté pour le parti, pour la LFI. Il y a un enjeu là, c'est important que, enfin les choses changent-elles aujourd'hui au niveau de la LFI?
Oui, il y a cet aspect-là effectivement, Christophe, qui est important, c'est que les 70 députés de la France insoumise. Hein, et d'ailleurs, la dernière fois, je m'étais un petit peu, j'avais dit un cinquième. Non, on est plus proche d'un septième en fait du Parlement qui est la France insoumise. Mais ce nombre important de députés LFI au Parlement n'est pas représenté au niveau municipal local. Pourquoi ?
Ultra-local,
ouais. Oui, parce que les bons scores de la France insoumise datent des dernières élections législatives qui ont eu lieu après les dernières municipales qui, elles, ont eu lieu il y a 6 ans, alors que les législatives ont eu lieu maintenant il y a 4 ans de cela. Donc, en fait, l'ancrage de la LFI au Parlement au niveau national n'est pas le même qu'au niveau local. Donc la question, c'est est-ce que le parti de Mélenchon est capable de convertir l'essai et d'avoir une représentation forte pour être aligné avec avec cette représentation nationale. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'en fait, au-delà même du score de la France insoumise, si la gauche est en difficulté à certains endroits, forcément, ça a des répercussions sur la France insoumise, parce que la plupart des cas où la gauche, et on pourra en parler dans quelques instants, et le Parti socialiste est en difficulté dans des mairies qui sont historiquement socialistes, c'est pas forcément parce que ça va favoriser à la France insoumise, mais ça va plutôt être en faveur d'une alternance écologiste ou d'une alternance même avec la droite. Et on a un nombre de villes comme ça importantes en France. Alors il y a évidemment la question de Paris, qui est un peu compliqué avec la succession d'Hidalgo, même si Emmanuel Grégoire, pour l'instant, apparaît comme grand gagnant face à Rachida Dati. Mais même si on prend, par exemple, la Bretagne, et je sais que ça vous fait plaisir qu'on parle de Bretagne, on a quand même plusieurs villes qui sont historiquement des bastions socialistes, qui ont été socialistes. Hein, je pense à Brest, je pense à Rennes. Alors, j'allais dire, je pense à Nantes en Bretagne, mais je m'arrête tout de suite. Puisqu'on est en Loire-Atlantique, et ça, je sais que ça.
On s'arrête tout de suite quand on pense à Nantes et en Bretagne.
Voilà, exactement, on s'arrête tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est même ces villes-là de l'ouest de la France, qui sont socialistes, où il y a des maires sortants qui sont socialistes, Brest, Nantes et Rennes, on n'est pas sûr, qu'elles vont rester socialistes. Et c'est des villes importantes, hein. Là, on ne parle pas de petites communes, hein. On parle de grandes villes dans un bastion socialiste qu'est la Bretagne.
On parle de préfectures, de sous-préfectures, enfin, c'est des préfectures, voilà. Des sous-préfectures, tout ça.
Et donc ça, voilà, ça c'est des exemples où les socialistes pourraient perdre. Et donc si les socialistes perdent, c'est pas forcément au profit de la France insoumise. Et vous avez la même chose. Là, on a parlé de la Bretagne. On peut faire la diagonale. Vous avez la même chose de l'autre côté en diagonale. Si on parle de Marseille, avec Benoît Payan, ou si on parle même de Montpellier avec Michael Delafosse. Voilà, ce sont des grandes villes du sud-est de la France qui sont socialistes, où le maire sortant PS est en l'occurrence en difficulté.
Eh bien, ça va être très intéressant tout ça. À droite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le RN, on sait à quel point la poussée du RN a été persistante depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce que le RN peut attendre de ces élections?
Alors le RN, il peut attendre 2 choses, Christophe. Il peut attendre d'abord de consolider certaines attaches au sein de municipalités françaises et même au sein de conseils municipaux françaises, parce que le RN a quand même un temps d'avance sur son miroir, j'allais dire, extrême de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des villes importantes en France qui ont été aux manettes du Rassemblement National. Et d'ailleurs, ça s'est pas souvent bien passé, parce qu'une fois que le Rassemblement National a accédé au pouvoir au sein des municipalités françaises, eh ben, ils sont bien sur les plateaux télé, mais ils n'ont pas forcément l'habitude de la gestion des municipalités, de la gestion des budgets, etc. Et donc, en fait, il y a eu vraiment un backlash en mauvais français, pas simplement parce qu'il s'agit du Rassemblement National, mais aussi par rapport à leur gestion même de ville. Donc il y a la question pour le Rassemblement National, d'abord, de consolider quand même certaines villes et villes importantes en France, et notamment, c'est d'autant plus important que si la France Insoumise fait un mauvais score, ça pourra quand même remettre un peu plus le Rassemblement National dans la course face à la France Insoumise, parce qu'on sait qu'il y a une porosité des votes, moins au niveau, j'allais dire, Christophe, local qu'au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a une vraie porosité de ces électorats, mais aussi ça permettra de mettre la machine, j'allais dire, nationale en route pour Marine Le Pen et surtout pour Jordan Bardella. Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, Christophe, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est un scrutin municipal qui est déjà fortement nationalisé.
Et, ouais, tout à fait.
Et on va déduire des résultats de ces municipales déjà, des tendances, des chiffres, des des programmes en fait qui vont pouvoir être mis en place pour les élections nationales, législatives et présidentielles de l'année prochaine. Donc c'est un test en fait, d'une certaine façon. Je sais que les politologues n'aiment pas ça, mais on est presque dans des élections pré-législatives et pré-présidentielles, alors qu'en fait il s'agirait d'un scrutin local. Mais c'est comme ça que la politique française marche, et on a beaucoup tendance, Christophe, à nationaliser ce scrutin-là. Et donc ça, c'est un élément qui est important pour le Rassemblement national. Il y aura forcément des enseignements nationaux pour le Rassemblement national, mais même pour les autres partis, à l'issue de ces élections municipales de mars 2026.
Absolument, ce sera une affaire à suivre. En tout cas, vous aurez notre analyse au sein des prochains épisodes d'Europa Voice. Merci Nathanaël pour cette semaine.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Australia's leading show for bold debate is back, where difficult conversations...
We can't go there.
...meet honest perspectives.
He couldn't control her anymore, so he killed her.
All new insight. Stream free on SBS On Demand.